Roumanie, voici nos informations en français.
18h sur la radio Sanya de Ségou, voici les titres de cette édition. Attaque des Coulongans. Après plusieurs mois d'enquête, le rapport de la mission de l'ONU au Mali pointe du doigt les chasseurs traditionnels d'Onzo. Des observateurs estiment qu'il faut maintenant rendre justice. Après la décision du gouvernement de prolonger l'année scolaire jusqu'en fin juillet, les responsables scolaires ont déjà entamé des campagnes de sensibilisation dans les établissements. À Ségou, les parents d'élèves sont partagés sur la question. La jeunesse UEMOA s'active à sensibiliser les populations sur l'importance de la gestion des eaux usées. Elle a tenu ce vendredi une conférence débat sur la question. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. Bonsoir à tous et bienvenue. La mission de l'ONU au Mali a rendu public, après plusieurs mois d'investigation, son rapport d'enquête sur l'attaque de Coulongo qui a fait 39 civils tués le 1er janvier dans le centre du pays. Si ce rapport d'une vingtaine de pages pointe du doigt les chasseurs traditionnels d'Onzo, les familles des victimes se disent inquiètes de voir ces crimes rester impunis. Intala Akbilal nous en dit plus.
Le rapport indique clairement que l'attaque de Coulongans a été perpétrée par des chasseurs traditionnels d'Onzo. Ceux-ci étaient accompagnés d'une dizaine d'individus en tenue civile. Et ces derniers sont formellement identifiés comme étant des résidents des villages voisins, précise le rapport. Le document va plus loin et explique que lors de cette attaque, les assaillants n'ont pas utilisé que des armes de chasse, mais des armes de guerre de type AK-47 ont été également utilisées. L'attaque a fait 37 morts sur place et deux autres personnes ont succombé à leurs blessures, a affirmé Guillaume Guéfan, chef de la division des droits de l'homme de l'aménagement. Les documents rapportent aussi que les peines étaient systématiquement visées. Mais contrairement à l'attaque de Ogossagou qui a fait plus de 160 morts au mois de mars dernier, les assaillants de Coulongans ont épargné les femmes. Selon le chef de la division des droits de l'homme de l'aménagement, ce rapport a été élaboré par une commission d'enquête composée d'une équipe de 10 personnes, 8 de la section des droits de l'homme et 2 policiers spécialisés en balistique. 110 personnes ont été interviewées au cours de l'enquête, a indiqué le responsable de la division des droits de l'homme de l'aménagement. Guillaume Guéfa précise aussi que les enquêteurs se sont basés sur le déroulement des faits, les circonstances dans lesquelles ils se sont passés et l'identification des auteurs de l'attaque. Cependant, certains points n'ont pas été clarifiés par les rapports, notamment la provenance des armes qui ont servi à l'attaque et le degré d'implication des autorités locales. Enfin, le rapport signale qu'une enquête en cours menée par le gouvernement sur l'attaque contre Coulongans a permis de mettre 8 personnes sous contrôle judiciaire et 4 en détention.
Pour certains observateurs, l'étape de la vérité doit être suivie le plus rapidement possible de celle de la justice, car prévient-il, plus on attend de rendre justice, plus la situation s'aggrave. Souleymane Drabo, éditorialiste, joint par Intala Akbilal.
La première chose, c'est de découvrir la vérité. Une partie de la vérité est dévoilée grâce au rapport de l'aménagement, mais il faut rappeler que dans ce cadre, ce n'est pas le seul rapport qui a été publié. Je vous rappelle que l'aménagement avait déjà fait un pré-rapport sur Ogossagou qui a eu lieu 3 mois après Coulongo et que le procureur antiterroriste aussi avait donné le bilan fait par les autorités maliennes. Et par ailleurs, je sais aussi que les autorités judiciaires de la région de Poti donnent ponctuellement des informations sur l'état de l'enquête. Donc, la première étape, c'est vraiment la vérité. La deuxième étape, c'est la justice. Rendre justice aux victimes. Et la justice, elle a des procédures qu'elle respecte, elle a des enquêtes qu'elle mène. Donc, ça peut durer très longtemps. Pendant tout ce temps, les victimes se sentent abandonnées. C'est vraiment une inquiétude. Parce que plus on attend pour rendre justice, plus on voit que la situation s'aggrave. Il faut que l'État aussi se réinstalle dans la zone. Et pour ça, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité revienne. Donc, je pense qu'il y a une conjonction de facteurs qu'il faut créer pour au moins avoir un début d'apaisement de la situation.
Parlant de sécurité, 2 militaires maliens dont un officier ont trouvé la mort ce mercredi suite à l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine. Les faits se sont déroulés sur la route de Djoura dans le cercle de Ténékou. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais selon certains observateurs, elle porte la signature des groupes terroristes toujours très mobiles au centre du pays. Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou le 75-84-12-12. La tension reste vive au Soudan après le massacre de plus d'une centaine de civils le lundi dernier. Pour les Maliens résidents dans le pays, vivre au Soudan devient de plus en plus risqué. Actuellement, selon eux, en plus de l'insécurité du danger qui rôde dans les rues, les populations peinent à s'approvisionner en vivres. Mohamed Abdallah Diko, un Malien résident au Soudan, joint par Elisabeth Cissé, nous livre son témoignage.
En tout cas, la situation est très compliquée. Je peux vous dire que cette nuit, personne n'est dormi dans la capitale. Nous sommes tous debout depuis 23h jusqu'au matin. Parce qu'il y a eu même des groupes armés qui sont venus de quel côté, qui ont voulu pénétrer dans le quartier. Mais Dieu merci, on a pu entendre quand même ce qui s'est passé. On a fait des appels dans les mosquées. Tout le monde était prêt en ce moment. On a passé toute la nuit dans les rues, devant les portes. En tout cas, pas de transport commun. Rien ne fonctionne dans la capitale actuellement. L'Internet est interrompu. Toute personne vivante au Soudan actuellement est menacée.
Autre sujet, mon environnement, je m'en occupe. C'est le thème d'une conférence débat tenue ce matin à Bamako, initiée par la jeunesse UEMOA en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Cette rencontre vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la gestion des eaux usées. Elle entend mener des caravanes, d'autres conférences débat et des activités de curage de caniveau pour prévenir les dégâts causés par l'inondation. L'activité rentre dans le cadre de la célébration de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement. Alassane Traoré, ambassadeur de la jeunesse UEMOA au Mali, au micro de Mamadou Samaseko.
Tout récemment aussi, il y a la pluie qui a fracassé notre pays. Il y a eu pas mal de victimes. Donc nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous vulgarisions les informations et essayer de sensibiliser nos pères, surtout les populations, les riverains qui sont vraiment installés anarchiquement sur les nids de nos fleuves, afin qu'ils puissent vraiment alors débarrasser le nid, parce que le nid n'est pas fait pour abriter. Notre apport, c'est toujours essayer encore de curer les caniveaux. Et chacun doit se mettre en tête qu'on ne va pas laisser tout à la portée du gouvernement. Le gouvernement, certes, mais nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui vivons là, ce n'est pas le gouvernement. Donc il faut que chacun vraiment participe, que chacun apporte son petit apport. Et je pense que si on fait ça, le développement vraiment pourrait être aussi. Tout au long de cette journée, nous avions prévu des activités. Il y aura des caravanes de sensibilisation, des curages de caniveaux. On va essayer de faire des ramassages de sachets plastiques, faire même des plaidoyers là-dessus. Donc c'est toute une chaîne.
Je vous l'annonçais dans le titre, le directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou a entamé une campagne d'information et de sensibilisation dans les différents centres d'animation pédagogique. Objectif, expliquer le bien fondé de la prolongation de l'année scolaire. Cependant, les parents d'élèves sont partagés sur la question. Certains disent comprendre la décision et trouvent même le temps insuffisant pour épuiser le programme. D'autres, en revanche, s'interrogent sur la faisabilité de cette prolongation à cause de l'hivernage. Le reportage de notre correspondant à Ségou, Mohamed Sissé.
Cette prolongation de l'année scolaire a été décidée suite à la rencontre entre le ministre de l'Éducation et les directeurs des académies d'enseignement du Mali. Il s'agit de rattraper le temps perdu, affirme Itous Ag Ahmed Iknan, directeur de l'académie d'enseignement de Ségou.
Nous avons évalué techniquement le temps perdu, à évaluer à 3 mois et 10 jours. Comment rattraper pour permettre aux enfants des écoles publiques, aux élèves des écoles publiques, de faire les examens au même titre que ceux des privés? Nous avons pris certaines mesures. La première, c'est que l'année doit continuer jusqu'au 31 juillet. Et la semaine de cours passe de 5 jours à 6 jours.
Certains parents d'élèves pensent que ces mesures ne suffiront pas à rattraper le temps perdu. Abdoulaye Diarra est de cela. Selon lui, cette solution arrange plutôt le gouvernement et non les enfants.
C'est une bonne chose si on prolongeait jusqu'au mois d'octobre prochain. Parce que l'année scolaire s'étale sur 9 mois d'études. Mais au mois d'août, ce n'est pas une solution. Ça ne bénéficie pas, en tout cas, ce n'est pas à l'avantage des enfants. Mais c'est l'État qui aura gagné en préservant les intérêts, ses fonds alloués à l'éducation.
Cette prolongation de l'année scolaire pourra-t-elle être possible partout? C'est la question qui taraude en revanche d'autres parents d'élèves. Parmi eux, Aliou Keita, qui se dit d'ailleurs très sceptique quant à la réussite de cette mesure.
Avec ces débuts d'hivernage, est-ce que le jour il y aura une forte sinon des vents, des tempêtes même? Et souvent accompagné de tonnerre, le foot, on ne le souhaite pas. Est-ce que les élèves pourront aller à l'école? Et on ne le souhaite pas. C'est qu'on a vu à Bamako avec les inondations. Là. Quand il y a les inondations, on se rabat sur les classes pour aller faire loger les sinistrés.
Il faut noter que suite à cette décision de prolongation des cours, les examens de fin d'année se dérouleront au mois d'août. Un mois où l'hivernage bat son plein. De Ségou, Mohamed Sissé pour Studio Tamani.
Sport football, Coupe du Monde des moins de 20 ans en Pologne. Le Mali joue en ce moment contre l'Italie pour les quarts de finale. Le score est de 2-2.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité régionale à Yanfouila, la convention intercommunale pour l'amélioration de la protection et du bien-être des enfants vulnérables a été signée hier. À travers cette convention, les actions du projet Jamsuka seront mises en œuvre par l'ONG Right to Play dans les 10 communes du cercle de Yanfouila. Il s'agit aussi de protéger les enfants abusivement utilisés dans l'orpaillage et de lutter contre les pratiques culturelles néfastes existantes comme l'excision, le mariage des enfants et la mendicité. Favoriser l'appropriation du document de position sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali auprès des acteurs étatiques et de la société civile, c'est l'objectif d'un atelier de restitution et d'appropriation tenu ce matin à Koutchala. Une trentaine de représentants de la société civile et de services techniques ont pris part à la rencontre. Elle a été organisée par Amasa Afrique Verte et l'OMAES. Comment sauver le fleuve Niger? C'est le thème du débat de ce soir et nos invités sont Dr Baba Faradji Ndiaye de l'agence du bassin du fleuve Niger, Jassou Sako, collectif Sauvons le fleuve Niger et Moussa Konate, Seco ONG. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à notre écoute. Dans un instant, le magazine Toutes les femmes du Mali. C'est dans ta Mali.